Bonjour à tous, je me réjouis que vous soyez si nombreux. J'ai plus l'habitude, hein. La dernière fois il y avait beaucoup moins de monde, mais bon. Voilà. Alors j'ai préparé ce message, pas moi toute seule, mais vraiment en collaboration avec d'autres personnes, avec Peter Tsukaira, qui est pasteur fondateur, co-fondateur de la communauté du Mont Carmel à Haïfa, et avec Tony Sperandeo, pasteur d'une église messianique en Israël aussi. Voilà. Donc c'est le fruit d'une collaboration aussi avec le Saint-Esprit. Parce que en fait, ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin, c'est parler de l'esprit d'Élie. Voilà. Alors l'esprit d'Élie, donc il en est parlé dans les derniers versets de l'Ancien Testament, Malachie 4, versets 5 et 6, hein, les tout derniers versets. Dieu promet à Israël, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il tournera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper le pays ou la terre de malédiction. Et les Juifs savent bien que le jour de l'Éternel, c'est le jour alors eux pensent que c'est la venue du Messie, la première venue. Mais ils savent que c'est ça, le jour de l'Éternel, c'est la venue du Messie. Et ils savent qu'Élie doit revenir avant la venue du Messie, puisqu'ils ont ce passage dans leurs écritures. Et donc ils attendent ce retour d'Élie comme un signe précurseur de la venue du Messie. Et au repas de Pessah, il y a beaucoup de familles juives, Pessah, donc c'est la Pâque juive, hein, il y a beaucoup de familles juives qui laissent une place libre pour Élie. Et même quelquefois, hein, et souvent, ils envoient un enfant à la porte, ouvrir la porte pour voir si Élie arrive. Et puis quand il n'arrive pas, et ben ils disent l'année prochaine il viendra. Donc ils attendent le retour d'Élie parce qu'ils attendent le Messie. Et donc Élie, hein, vous savez, c'était l'un des grands prophètes en Israël, l'un des plus grands prophètes, peut-être même l'un des deux plus grands prophètes avec Élisée. Hein. Donc Élie, il est apparu en Israël quand le royaume d'Israël était divisé. Il était plein d'idolâtrie, l'autel de l'Éternel était détruit au Mont Carmel. Il y avait 450 prophètes de Baal, et il y avait en plus aussi 400 prophètes d'Astarté. Donc voilà, Élie devait confronter les responsables religieux qui ne servaient plus du tout le Dieu d'Israël, hein, puisque l'autel était détruit, et il devait aussi confronter le gouvernement d'Akab. Donc il avait une opposition à la fois religieuse, religieuse dans le mauvais sens du terme, quoi, on va dire, politique. Il devait confronter aussi Akab. Et donc Élie, il prophétisait, il annonçait la parole de Dieu, mais il parlait à une génération qui s'était éloignée du Dieu d'Israël, une génération qui ne s'attendait plus du tout au Dieu d'Israël. Donc il se croyait seul à être encore prophète de l'Éternel, à résister à l'esprit du monde. Et bon, cette situation, ça nous parle aussi. Hein. On voit tout ça dans le premier livre des Rois, chapitres 17 à 19, mais bon, ce serait trop long à lire. Hein. Vous pouvez les lire si vous voulez. Un roi 17 à 19. Voilà. Et cette situation, ça nous fait penser aussi à ce qu'on vit. Hein. Parce que on vit aussi dans un monde où les responsables politiques s'oppose aux chrétiens, prennent des décisions avec lesquelles les chrétiens sont souvent pas d'accord, et donc s'opposent aussi à Dieu, en fait. Et quelquefois, les responsables religieux même prennent aussi de mauvaises décisions et se sont un peu éloignés de ce que dit la parole de Dieu. Donc on vit dans ce genre de monde. Alors qu'est-ce que Élie a fait? Il a rebâti l'autel de l'Éternel au Mont Carmel avec 12 pierres. parce que il fallait que chaque pierre représente une des tribus d'Israël. Donc 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Et ça, ça voulait dire qu'il rebâtissait l'autel de l'Éternel, pas seulement pour lui-même et pour les gens qui étaient autour, mais pour tout Israël, pour toutes les tribus d'Israël. Et donc sur cet autel, il a placé du bois, bien sûr, un bœuf coupé en morceaux, et il l'a gorgé d'eau en versant, donc j'ai compté dans la parole, en tout il y avait 12 cruches d'eau. Donc vraiment c'était archi débordant d'eau. Et il a invoqué l'Éternel, le feu du ciel est descendu, le feu du ciel a consumé non seulement le sacrifice, mais il a absorbé toute l'eau, enfin, bref. Donc c'était le miracle qui montrait vraiment que l'Éternel était Dieu et le peuple a pu se tourner à nouveau vers Dieu parce qu'il a vu ce miracle. Donc c'est ce genre de choses qu'on est aussi appelé à vivre. Alors dans Malachie, il est dit qu'Élie doit revenir avant la venue de Jésus le Messie. Mais en fait, nous on sait bien qu'il y a deux venues de Jésus. Donc dans Malachie 3, verset 1, il est dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi ». Et ça, ce passage-là, ça fait référence à la première venue de Jésus, où avant lui, il y a Élie, c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui a été envoyé. Alors on sait que c'est Jean-Baptiste parce que Jésus le dit clairement dans Matthieu, chapitre 11, verset 10. Il dit clairement que ce messager qui prépare le chemin du Seigneur, en appelant les gens à la repentance, c'est Jean-Baptiste. Et dans Matthieu 11, verset 14, il dit encore plus clairement, c'est lui, donc Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui doit venir, qui devait venir. Et sur Jean-Baptiste, donc il a été prophétisé avant même sa naissance que Jean-Baptiste, donc ça c'est dans Luc chapitre 1 verset 15 à 17, Jean-Baptiste donc sera grand devant le Seigneur, il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère et il ramènera beaucoup des enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui, devant Dieu, avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Donc ça avait été prophétisé que Jean-Baptiste serait Élie à nouveau. Pour tourner le cœur des pères vers leurs enfants et pour ramener les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc dans tout ça, il manque une partie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, mais pas encore le cœur des enfants vers leur père. C'est voilà. Parce qu'en fait, souvent, quand on pense à la prophétie de Malachie, on pense que c'était les familles, rassembler les familles, rassembler les générations, réconcilier les générations entre elles. Mais c'est pas... Bon, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, mais c'est pas ce que Dieu a voulu dire vraiment. Parce que dans la parole de Dieu, les pères du peuple d'Israël, ce sont Abraham, Isaac et Jacob. Donc ce sont les pères fondateurs du peuple d'Israël, quoi. Et donc quand il est dit ramener, enfin, ou tourner le cœur des pères vers les enfants, c'est en fait le peuple d'Israël qui devait se tourner vers les non-juifs. Et ça, c'était quelque chose de complètement impossible pour eux, humainement. Parce que, ils avaient été élevés dans le fait que les juifs avaient la vérité, les écritures, etc. Et les autres, c'était les étrangers. Alors, ok, on les bénissait, on leur donnait de la terre, on leur donnait des repas quand il y avait des fêtes et tout ça. Mais ils étaient pas juifs, quoi. Ils étaient à part. Et on... Même les juifs religieux ne voulaient même pas manger avec les étrangers, quoi. C'était, ils voulaient être séparés. Donc c'était quelque chose de complètement nouveau et c'est pour ça que Jean-Baptiste devait venir préparer le cœur des juifs à accepter aussi que les non-juifs entrent dans le royaume de Dieu. Donc Jean-Baptiste annonçait le royaume de Dieu, il les incitait à se repentir, à revenir de leur mauvaise voie, mais il voulait aussi préparer leur cœur, en fait. Il fallait que les Juifs cherchent le cœur de Dieu, en fait, cherchent à connaître Dieu, à connaître son cœur de Père. Et donc Jean-Baptiste, il avait ce ministère et ce pouvoir, avant même le ministère de Jésus, de tourner les cœurs du peuple de Dieu vers le Dieu vivant pour les ramener à ce qui avait été prophétisé dans les Écritures. Avant même que les miracles et le sacrifice de Jésus accomplissent les prophéties dans les Écritures, c'est clair que dès le début, Dieu a mis à part Israël, il a créé le peuple d'Israël, j'en ai déjà parlé à d'autres reprises, mais il a créé le peuple d'Israël, mais il ne voulait pas sauver seulement le peuple d'Israël. Dès le début, il voulait préparer le salut pour le monde entier. Jésus n'a pas donné sa vie que pour les Juifs, il a donné sa vie pour tout homme et toute femme. Donc c'était prévu dès le début, seulement pour les Juifs, ce n'était pas clair du tout. Donc il fallait que les Juifs apprennent à connaître le cœur de Dieu le Père pour pouvoir justement accepter cela. Alors Jésus a dit de Jean-Baptiste quelque chose de très fort dans Matthieu 11:11. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Donc ça veut dire pas de plus grand. Jean-Baptiste était plus grand que Moïse. Il était plus grand qu'Abraham. Il était plus grand qu'Élie. Il était plus grand que le roi David. Il était plus grand que tous les prophètes. Eh bien oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui était si grand en Jean-Baptiste, c'est le fait qu'avant que Jésus ait fait le moindre miracle, avant la croix, avant la résurrection de Jésus, Jean-Baptiste s'est levé avec un message qui était complètement révolutionnaire pour le peuple de Dieu. Il leur disait de se repentir, alors que c'était des gens qui honoraient Dieu, qui faisaient régulièrement les sacrifices au temple, etc. Donc il leur a dit de chercher à connaître le cœur de Dieu et de revenir à lui parce que le Messie allait venir. Bon, il n'a pas utilisé le mot Messie, mais quand il a dit quelqu'un de plus grand que moi, c'était le Messie, bien sûr. Voilà, et donc ce message de Jean-Baptiste a commencé à tourner le cœur des pères vers les enfants. Et c'est le premier effet de l'esprit d'Élie. Le mystère de Christ, dont parle la lettre aux Éphésiens, c'est que, au départ, les promesses de Dieu ont été données à Israël, le royaume de Dieu a été donné à Israël, mais le mystère de Christ, c'est qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec. Ça, c'est dit dans le chapitre 2 des Éphésiens. Le mur de séparation qui était dans le temple pour séparer le parvis des païens, donc le parvis des non-juifs, le parvis où les gens des nations pouvaient aller, du parvis des juifs, où seuls les juifs pouvaient entrer, ce mur de séparation a été détruit par Jésus à la croix. C'est dit dans Éphésiens. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence, il n'y a pas de citoyens de seconde zone dans le royaume de Dieu. On est tous égaux devant Dieu, hommes, femmes, juifs, non-juifs, on est tous appelés à faire ensemble l'Église, à former ensemble l'Église, c'est-à-dire l'épouse de Christ. On est tous appelés à être ensemble la famille de Dieu, mais pas seulement la famille de Dieu. L'Église, c'est le plan A de Dieu pour apporter le royaume de Dieu au monde. Et il n'y a pas de plan B. Donc c'est l'Église qui doit jouer son rôle. Et quand je dis l'Église, je ne veux pas dire seulement les chrétiens des nations, c'est l'Église avec un grand E, c'est-à-dire tous les croyants, aussi bien les juifs messianiques que les chrétiens des nations, dont les chrétiens arabes font partie, on est tous ensemble l'Église. Et si on est une seule famille, on doit se préoccuper les uns des autres. Et c'est là que on a un petit peu du mal. Alors il y a 2000 ans, les pères juifs de notre foi, c'est-à-dire les apôtres, ben, ils ont ouvert la porte du royaume de Dieu aux gentils, aux non-juifs. Et ça, c'était vraiment pas facile pour eux. Il y a eu plein de discussions, hein, dans les actes des apôtres. On voit qu'il y a eu des discussions parmi les premiers chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut leur demander aux non-juifs? Est-ce qu'il faut leur demander de se circoncire, etc., etc. Hein, il y a eu plein de discussions. Mais ils ont obéi au Seigneur, ils ont obéi à l'esprit d'Élie en ouvrant la porte du royaume de Dieu aux non-juifs. Et l'apôtre Paul, donc c'était un rabbin juif, hein, très éduqué d'ailleurs, hein, et il a été l'apôtre des non-juifs, des païens, comme il disait. Voilà. Donc le fait que le royaume de Dieu soit ouvert aussi aux non-juifs, eh bien, ça a permis que l'évangile soit répandu dans le monde entier et ça a construit la civilisation chrétienne. Le christianisme a fait de grandes choses vraiment pendant des siècles. Mais, donc 300 ans après à peu près, hein, il y a 1700 ans, l'Église est tombée dans la théologie du remplacement, c'est-à-dire qu'elle a voulu remplacer le peuple juif. Elle a voulu remplacer Israël. Et Dieu a permis cela. Dieu a permis à l'Église de changer le calendrier. Il l'a laissé faire. Il a permis à l'Église de renommer les Écritures, les seules Écritures que Jésus connaissait, les seules Écritures que les apôtres connaissaient, hein, les premiers chrétiens. Eh bien, on les a renommées l'Ancien Testament, comme si c'était terminé. Alors que, par opposition avec le Nouveau Testament, ce qu'on devait maintenant vivre. Hein. Donc, Dieu a permis ça, il a laissé ça, parce que c'était en fait le temps des nations, le temps où l'Évangile devait être annoncé aux nations. Et donc l'Église catholique, puisque à l'époque c'était ça, hein, il n'y avait que l'Église catholique, elle s'est substituée au royaume de Dieu. Non seulement elle a rejeté le peuple juif, mais elle a en même temps remplacé le royaume de Dieu. Dans le credo de l'Église catholique, il est dit clairement que si on n'est pas catholique, eh ben, on ne fait pas partie du royaume de Dieu, quoi. On n'est pas sauvé. C'est dit très clairement. Hein. Voilà, donc c'est encore le cas maintenant. Donc ensuite, il y a eu les différentes scissions, hein, l'Église orthodoxe, la réforme. Mais l'Église orthodoxe aussi bien que l'Église réformée, enfin les églises issues de la réforme, ont gardé cette théologie du remplacement, ont continué à croire que leur Église était le royaume de Dieu en fait. Et c'est pour ça que chaque dénomination chrétienne maintenant, officielle, hein, ben, se considère comme plus importante que les autres. C'est pas toujours dit très clairement, mais dans les faits, c'est un peu ça. Hein. Donc, chaque dénomination chrétienne croit en fait encore qu'elle est quasiment le royaume de Dieu, quoi. Et le catholicisme romain, notamment, c'est vraiment une pyramide. Hein. C'est un fonctionnement très très pyramidal. Très pyramidal. Le pape est au sommet. En dessous, il y a les archevêques. En dessous encore, il y a les évêques. En dessous encore, les prêtres. Encore en dessous, les diacres. Et tout en bas, il y a le peuple, quoi, les gens du peuple. Voilà. Et quand le pape est assis sur le trône de pierre, hein, au sommet de la pyramide, eh bien, ce qu'il dit, sa parole, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le dogme de l'infaillibilité du pape, hein. C'est la parole de Dieu, c'est-à-dire il se met en fait à la place de Dieu. Personne ne peut le contredire. Donc ça, c'est quelque chose que les réformateurs ont voulu changer. Hein. Ils ont voulu que la parole de Dieu soit remise au centre de l'Église. Et donc ils ont traduit la Bible dans les langues des différents peuples pour que les gens puissent lire la parole et se faire leur propre opinion et voilà, croire sans devoir écouter aveuglément ce que les prêtres ou les autres leur disaient. Voilà. Donc ça, c'était une bonne chose. Mais la théologie du remplacement, elle n'a pas été modifiée, quoi. On a continué à croire que maintenant c'était l'Église réformée ou les autres églises qui sont nées après, c'était eux qui avaient la vérité, qui était le royaume de Dieu. Donc ça fait qu'au lieu de la grande pyramide, on l'a remplacée par des tas de petites pyramides. Et il y a toujours ce fonctionnement pyramidal, enfin dans beaucoup d'églises officielles, ce fonctionnement pyramidal où le pasteur sait tout, le pasteur fait tout. Et puis les ouailles, elles obéissent, elles suivent, voilà. Dans beaucoup d'églises, ça se passe encore comme ça actuellement. Donc on a vraiment besoin, parce qu'en fait ça c'est humain. Humainement, on a envie en fait que quelqu'un nous dise quoi faire, parce que c'est rassurant, c'est sécurisant, voilà. Mais dans la première église, les premiers chrétiens, c'est pas comme ça que ça se passait. Chacun avait quelque chose, un chant, une exhortation, une parole, une image qui leur venait. Ils le partageaient et ils étaient soumis les uns aux autres, mais c'était pas la majorité qui était soumise à une ou deux personnes ou quelques personnes, le pasteur et les anciens. Non, c'était pas ça du tout. Même les apôtres, ils recevaient aussi ce que les autres leur disaient. Donc c'est un fonctionnement qu'on a perdu en fait, qu'on a souvent complètement perdu, et on a besoin de le retrouver. Mais ça, en fait, ça se décline de manière, de beaucoup de manières, et on réalise pas toujours qu'on a ce fonctionnement un petit peu tordu. Rien que le fait de donner un message, normalement, parmi les juifs, comment ils font? Quand ils enseignent, en fait, c'est pas un enseignement magistral, ils posent des questions, et puis on discute, et chacun apporte son point de vue, et on se confronte les uns aux autres, et c'est comme ça qu'on apprend ensemble. On apprend ensemble du Saint-Esprit. On a besoin d'apprendre ça. Bon, on l'a vécu un peu dans les TDR, on devrait le vivre beaucoup plus encore. Mais c'est quelque chose qui nous dérange un peu parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, je reconnais que j'ai un peu du mal avec ça. Mais pourtant, c'est comme ça que vivait la première église, et le Seigneur veut nous ramener à ça. Donc, quand on lit les Actes des Apôtres, on voit bien qu'on s'est vraiment éloigné de ce qui se vivait, de ce qui était enseigné, de ce qui était écrit par les apôtres notamment, mais même les chrétiens de la première église. Donc c'est maintenant le temps, parce qu'on sait, on approche de la fin des temps, faut pas se leurrer, on voit bien qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, que le peuple de Dieu, la moitié des juifs sont retournés en Israël au moins, et même je crois que maintenant c'est plus de la moitié. Il en reste encore une petite moitié qui doit retourner en Israël, puisque ça c'est aussi un signe de la fin des temps. Tout le peuple d'Israël doit retourner dans la terre d'Israël qui lui a été promise, parce que c'est là que Dieu va rencontrer son peuple. Mais ça, c'est en train de se faire. Il y a de plus en plus de juifs qui découvrent Yeshua, qui découvrent leur Messie, qui se tournent vers Yeshua et qui sont sauvés. Il y avait la création de l'État d'Israël en 1948, il y avait 30 juifs messianiques. 50 ans après, en 88, il y en avait 300. Bon, c'était déjà pas mal, 10 fois. Mais 30 ans après encore, en 2018, il y en avait 30 000. Multiplié par 100. Et ça continue à augmenter. Ok, c'est pas encore beaucoup par rapport au nombre de juifs qu'il y a en Israël. Il y a plus de 7 millions de juifs en Israël. Donc, plus 1 million et demi environ d'autres personnes. Donc c'est sûr, c'est pas encore beaucoup. Mais ça vient. Ça vient de plus en plus et de plus en plus vite. Donc on se rend compte que l'Église, elle peut plus rester dans son coin, en croyant avoir la vérité, en croyant être l'expression du royaume de Dieu à elle toute seule. Non, on est une famille entière. L'Église avec un grand E, c'est tous les croyants. Et si on est une famille entière, eh bien on doit se préoccuper les uns des autres et marcher ensemble. Et voilà, avancer ensemble, construire des ponts. Construire des ponts avec Israël, avec les Juifs messianiques, mais aussi construire des ponts avec les autres églises, et non plus des murs. Et voilà, et pour ça, on a absolument besoin de l'esprit et de la puissance d'Élie. La puissance d'Élie aussi pour les miracles qui doivent accompagner l'annonce du royaume de Dieu. Mais l'esprit d'Élie, on en a vraiment absolument besoin. Et le Seigneur le sait, il a laissé faire pendant des siècles, mais bon, ça fait déjà un moment hein, qu'il a commencé à réveiller un peu l'Église. Mais là, c'est comme s'il disait, ça suffit maintenant. Vous êtes une seule famille, ça suffit maintenant de rester dans votre coin, de croire avoir la vérité à vous tout seul. Commencez à vous repentir, à chercher Dieu, à chercher dans les Écritures comment vivaient les premiers chrétiens et à vous rapprocher de ce modèle que l'Esprit-Saint avait donné à l'époque. C'était juste après la première Pentecôte, donc forcément ils étaient pleins de feu, ils étaient vraiment dirigés par l'Esprit. Et voilà, donc maintenant c'est le temps où c'est la deuxième partie. L'esprit d'Élie vient avec puissance pour ramener le cœur des enfants, c'est-à-dire des non-chrétiens, hein, de ceux qui sont nés en fait des pères juifs de la première église, donc ramener le cœur des enfants vers leur père, c'est-à-dire pour que l'église, les chrétiens des nations retrouvent leurs racines juives. Et parce qu'en fait, les auteurs de la Bible étaient tous des juifs. Les premiers chrétiens n'étaient pas tous des juifs, parce que dès le début, il y en a eu d'autres. Mais les auteurs de la Bible étaient tous des juifs. Et donc, c'est eux qui ont apporté le royaume de Dieu aux non-chrétiens, au début, les juifs. Et nous, maintenant, on doit se rapprocher à nouveau, chercher à nouveau ce que Dieu veut nous dire à ce sujet. Donc c'est vraiment crucial. On a besoin de recevoir l'esprit d'Élie. Et ça se fait pas une seule fois, ça se fait tous les jours. Laissez l'esprit d'Élie nous montrer là où on doit se repentir. Alors ça peut être par rapport à notre indifférence par rapport à Israël, hein. Ça peut être par rapport à notre indifférence par rapport à d'autres chrétiens, d'autres dénominations, à ce qu'ils vivent, etc. Ça peut être aussi parce qu'on a besoin d'être purifiés dans notre vie, hein, parce que Christ veut préparer son épouse qu'elle soit sans tache ni ride. Et bon, on est humain, on en est encore loin, on a tous des domaines où on a besoin d'être purifiés. Donc c'est l'esprit d'Élie, il va faire tout ça, il fait tout en même temps. Il ramène le cœur des chrétiens, mais pas seulement les chrétiens des nations, hein, l'église entière, il ramène le cœur des enfants à leur père, c'est-à-dire qu'il ramène les chrétiens à se repentir, tout comme Jean-Baptiste appelait à la repentance. L'esprit d'Élie fait la même chose, à se repentir, et à se repentir, ça ne veut pas dire simplement je demande pardon, mais c'est changer de comportement. La repentance, ça va jusqu'au changement de comportement, au changement de vie, hein, ça va jusque là. Donc voilà, l'esprit d'Élie, c'est ça son travail. Et nous, on a juste à l'accepter, et c'est vrai que ça va nous demander beaucoup, parce que ça va nous demander de donner toute notre vie, d'être disponible pour l'intercession, d'être disponible pour tout ce que le Seigneur voudra nous faire faire, hein, et puis de confronter les oppositions. Donc il y aura un prix à payer, c'est clair. Mais c'est vraiment ce que le Seigneur veut faire en cette fin des temps. De réveiller son Église, qu'elle soit plus dans son coin à chercher à augmenter les nombres de membres parce que voilà, le royaume de Dieu grandit si le nombre de membres de l'Église grandit. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que son royaume soit annoncé à tous, sans se préoccuper de savoir un tel ou un tel dans quelle église il va aller. C'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que les personnes reçoivent le salut et entrent dans le royaume de Dieu, reçoivent vraiment l'évangile du royaume. Et donc l'esprit d'Élie, ben il vient remettre un petit peu tout ça à plat et puis voilà, nous dire où est-ce que tu en es avec tout ça. Et où est-ce que tu en es aussi par rapport au peuple d'Israël? Parce que un mandat important de l'Église, c'est de consoler le peuple d'Israël. Alors consoler, ça veut dire aussi soutenir, hein. C'est mettre des étés, si vous voulez. Donc ce que Rachel fait là, en ce moment, bah, c'est exactement ça. Mais on a besoin que ce soit multiplié par 10, 100, 1000. Voilà, qu'il y ait des actions comme ça d'aide concrète d'Israël. Et si on peut pas le faire concrètement, pour une raison ou pour une autre, eh bien ce qu'on peut toujours faire, c'est intercéder pour Israël. Intercéder pour que le peuple d'Israël se tourne vers son Messie, vers Yeshua. Enfin, d'abord le voit, hein, que les écailles soient enlevées de leurs yeux et puissent se tourner vers lui. Et voilà, et ça c'est aussi prier pour la paix de Jérusalem. Parce qu'il n'y aura pas de paix à Jérusalem si le prince de la paix n'est pas reçu à Jérusalem. Et quand le prince de la paix sera reçu à Jérusalem, quand la majorité des juifs, parce qu'en fait quand il est dit tout Israël sera sauvé, ben c'est la majorité, hein. Personne ne va être sauvé de force, donc c'est tous ceux qui voudront être sauvés seront sauvés, mais il n'y aura plus rien qui les empêchera de voir Yeshua. Donc ils choisiront en connaissance de cause, et donc la majorité des juifs acceptera le Messie. Et là, Jésus reviendra. Hein. Mais c'est pour ça qu'on doit intercéder. Donc se préparer, c'est aussi intercéder pour ça. Hein. Voilà, donc ça fait... C'est tout un programme. Hein. Mais voilà, moi, j'aurais à cœur qu'on... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais à cœur qu'on puisse prier pour ça. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui, est-ce que tu veux...
Bon.
Oui. Ok. Oui, mais Seigneur, on n'en est pas tous au même point. Hein. C'est pour certains d'entre nous, ce que j'ai dit, c'est peut-être un peu enfoncer les portes ouvertes. Mais pour d'autres, c'est vraiment nouveau. Toi, tu nous connais chacun. Tu sais où chacun en est. Et toi, tu n'es pas pris au dépourvu par l'ampleur de la tâche. Tu connais nos cœurs. Tu vois qu'on veut te servir au fond de nous, mais qu'on ne sait pas toujours comment faire et on a vraiment besoin de toi, Saint-Esprit. Alors oui, on te dit ce matin que viens. On t'appelle Esprit d'Élie, on t'appelle Saint-Esprit, on te demande vraiment de venir changer nos cœurs, de venir nous faire voir les choses comme toi tu les vois, de venir nous faire te voir comme le Père des Juifs aussi bien que des chrétiens des nations, et qu'on puisse vraiment réaliser qu'on fait partie d'une seule famille et qu'on puisse vraiment appeler à apprendre à marcher ensemble, qu'on puisse vraiment apprendre à construire ces ponts. Tu nous montres comment faire, Saint-Esprit. Tu nous montres là où on a besoin de repentance. Et oui, déjà, oui, je veux te demander pardon pour l'indifférence des chrétiens par rapport à Israël. Ouais, pour le fait que l'Église, les chrétiens, la plupart des chrétiens ne prennent pas position pour Israël, ne protègent pas les Juifs en France, par exemple, ou dans les autres nations, et ne prennent pas position, ne défendent pas Israël, et en fait ne réalisent pas que c'est ta parole qui s'accomplit. Et que si on s'oppose à ta parole, on s'oppose à toi. Alors pardon, Seigneur. Pardon. Et oui, montre-nous vraiment là où on a besoin de repentance, que ce soit pour notre vie personnelle, que ce soit pour notre famille, pour notre église, pour notre pays. Tu nous montres qu'on a besoin de repentance, Esprit d'Élie. On t'appelle parce qu'on a besoin de toi. Alors merci parce que tu es fidèle pour répondre et pour nous emmener au-delà de notre zone de confort, pour nous emmener à nous donner vraiment pour que ton royaume se répande. Et que voilà, la manifestation de ton royaume, ce sera aussi quand tous les chrétiens, aussi bien juifs messianiques que chrétiens des nations, seront unis. Et voilà, et les gens diront, voyez comme ils s'aiment. C'est pas les gens d'une même église qui vont vivre ça, mais c'est tout le peuple de Dieu. Et c'est ça qui va bouleverser les gens, qui va les amener à te découvrir comme le Dieu d'amour. Oui. Alors Esprit d'Élie, viens faire ton travail. On te dit, vas-y, on veut renoncer à ce qu'on croit, nos privilèges, nos droits, tout ça. On veut renoncer à notre confort pour te dire, mais viens agir dans nos vies, viens nous emmener là où on n'irait pas tout seul, pour que ton royaume se répande. Amen.
Et on veut s'humilier ce matin, Seigneur, devant toi. Et au nom de l'Église de France, au nom de cette Église, je veux vraiment m'identifier en tant que sacrificateur, te demander pardon, Seigneur, pour notre arrogance. Marie-Christine, elle a prié par rapport à l'indifférence, c'est vrai. Mais il y a aussi cette arrogance. Pardon, Seigneur, pour l'Église de France qui a cru qu'elle pouvait se développer sans la racine d'Abraham, sans être fondée sur ce que toi-même tu avais planté. Seigneur, pardon, pardon, pardon. On ne pourra pas vivre l'unité si on n'a pas compris à nouveau ce que toi tu as planté. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos propres idées. Seigneur, pardon d'avoir mis en place un faux évangile puisqu'il n'était pas complet. Seigneur, viens nous laver. Viens nous nettoyer, viens, on veut t'aimer avec toute notre pensée, mais viens nettoyer nos pensées, viens nettoyer toute notre tradition, Seigneur. Il y a des bonnes choses dans la tradition, mais il y a aussi des choses humaines, et on ne peut pas tenir sur les choses humaines. Merci pour ton esprit de révélation qui souffle en ce moment, Seigneur. Merci parce qu'on n'en ressort pas indemne. Et sois libre au milieu de nous. Esprit de révélation, esprit d'Élie, sois libre, nous t'ouvrons grand les portes. Sois libre en France maintenant, sois libre dans cette nation, que toutes les idoles tombent, que tout ce qui est, tous les murs d'inimitié qui se sont bâtis au fur et à mesure des années, des siècles, ça dégage maintenant, ça, c'est détruit par ta puissance maintenant. Parce que c'est ton œuvre, Saint-Esprit, c'est pas nous, c'est pas nos propres forces, c'est pas nos propres idées, c'est toi, on le reconnaît simplement. On reconnaît ce que tu fais en ce moment. Et ça nous humilie profondément en tant que nation orgueilleuse, en tant que nation arrogante qui a voulu supplanter un faux évangile. Pardon, Seigneur. Pardon, nous voulons voir cette église sans tache et sans ride se lever. C'est le cri de nos cœurs, c'est le cri de nos entrailles, parce que c'est le tien, c'est toi qui l'as mis en nous. Et on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment tu veux nous amener là, mais on veut simplement te suivre. Alors ça commence par demander pardon. Et merci parce que cette place d'humilité, elle est très facile. Et elle nous renouvelle. Et elle nous permet de nous approcher de toi. Et tu lèves une église petite, comme l'a dit déjà Anne. Parce que c'est toi qui fais tout. Et nous sommes ton épouse et nous voulons simplement te suivre et recevoir les instructions de ta part. Aimer comme tu aimes. Aller vers ceux qui nous ont fait du mal, demander pardon et pardonner. C'est des choses toutes simples que tu nous as apprises, Seigneur. Et on veut te suivre dans ces choses toutes simples, mais parfois qui nous coûtent. Merci, Seigneur.